Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça, c'est de la vue! Ah, c'est magique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène dans le pôle sud. On n'y est jamais allé je crois. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est pas n'importe qui va nous y emmener. Parce que c'est un aventurier qui est déjà venu sur ce podcast. C'est Mathieu Tordeur. Parce que son objectif c'était de relier le pôle sud sans assistant, sans rien, tout seul, avec sa bite et son couteau. Et il va nous en parler parce que c'est un record mondial, parce que c'est le plus jeune et le seul français à l'avoir fait sans assistance, seul. Mathieu, comment ça va?
ça va bien, merci pour cette intro. Je suis revenu du pôle sud il y a 2 ans et aujourd'hui je suis là avec toi parce que j'en reparle, parce que je vais avoir un bouquin qui va sortir le 5 novembre, donc je suis ravi de t'en parler.
Et qui s'appelle pas Objectif Pôle Sud comme t'appelles ta mission, mais qui s'appelle Le Continent Blanc.
Ça, c'est le nom du livre
qui vient de sortir.
Mais pour répondre à ta question, je suis en pleine forme.
Ouais, c'est ça en plus, c'est ça. Là, du coup, tu m'étonnes quand tu viens de sortir un bouquin, ça aussi, c'est notre aventure. Mais justement, j'aimerais qu'on revienne sur l'aventure que décrit ce bouquin, et surtout qui a été une énorme, peut-être ta plus grosse première aventure, parce que là, t'en as refait depuis. Moi, j'aime bien commencer par le pourquoi. Pourquoi t'as choisi cette aventure-là? Pourquoi tu l'as choisi de cette façon-là, c'est-à-dire sans assistance, c'est-à-dire que tu traînais tout seul ta poulka, enfin le petit traîneau derrière toi. C'était sur 50 jours, si je dis pas de bêtises. Pourquoi avoir choisi ça?
En fait, pour expliquer un petit peu mieux l'expédition à ceux qui nous écoutent, le projet c'était de rallier le pôle sud depuis la côte du continent. Le pôle sud c'est en Antarctique. L'Antarctique c'est le continent le plus au sud de notre planète. Et le projet c'était effectivement de partir tout seul, de partir sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction. Moi je voulais le faire vraiment à l'ancienne, avec un traîneau, mes deux skis et avancer un petit peu au rythme du temps, c'est-à-dire vraiment au rythme de la marche. Et puis me demande pas pourquoi, mais j'ai choisi de le faire sans ravitaillement, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était disposée tout au long de ma route. Quand je suis parti de la côte du continent, je suis parti avec tout ce dont j'avais besoin pour toute la durée de l'expédition, c'est-à-dire ma nourriture, mon combustible pour faire fondre la glace et obtenir de l'eau, mon équipement, mon téléphone satellite, ma tente, etc. Et en fait, le pourquoi de cette expédition, il remonte à mes lectures quand j'étais gosse, des expéditions des premiers aventuriers et explorateurs polaires. Il y a toute une littérature de l'exploration polaire qui a commencé il y a bien longtemps, bien avant que j'y mette les pieds. On a découvert le pôle sud en 1911, donc c'était il y a 100 ans. C'est à la fois récent
récent finalement.
Mais ouais, on y est allé pour la première fois un demi-siècle avant d'aller sur la Lune. Donc si tu veux, c'est quand même un continent qui est encore assez vierge de pas mal de choses. Et moi, j'ai grandi avec les récits de ces explorateurs, donc on pourrait les citer. Peut-être que tu les connais ou que
c'est du name dropping pour les gens. Et on va montrer que t'as un peu de savoir, un peu de connaissances, montre que tu pèses un peu.
Non, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont entendu ces noms, mais il y a un Anglais qui s'appelle Capitaine Scott, qui était le vaincu du pôle sud, celui qui est arrivé en premier. C'était un Norvégien qui s'appelait Amundsen en 1911. Mais les Français, il y en a eu aussi. Il y a eu Jean-Baptiste Charcot, Paul-Émile Victor, ce genre de personnages. Et puis plus récemment, des gens comme Jean-Louis Etienne. Enfin voilà, ce sont des gens, moi, qui m'ont beaucoup inspiré. Et je crois que j'étais un petit peu fatigué de lire que par procuration ces expéditions et de voir plein de documentaires, et j'avais une espèce d'attraction un peu irrationnelle pour ce grand continent blanc, parce qu'on va en parler, c'est un continent dans lequel il n'y a rien ni personne.
Je fais juste un petit nota bene, il faut surtout pas confondre avec le pôle nord où là tu vas avoir des ours polaires, où en plus il faut faire gaffe parce que c'est pas la même chose, tu peux te faire becquer pendant la nuit. Là c'est agendas, il se passe rien, c'est de la glace, il y a personne, il y a pas de pépites de chocolat, il y a rien. C'est
non,
vraiment
c'est...
tout blanc.
Continent Antarctique, ça fait 28 fois la taille de la France. Donc c'est un continent qui est absolument immense. C'est colossal. C'est vraiment le continent de la démesure. C'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux du monde. Ça veut dire qu'il y a pas de, il y a peu de précipitations et il fait froid tout le temps. Et il y a
faut que tu m'expliques un truc.
Seuls animaux.
Il y a pas d'animaux.
Il y en a, mais ils sont sur la côte du continent parce que c'est là qu'il y a à manger en fait.
Ah, au milieu, personne vient squatter. Il y a vraiment. Bah non, parce qu'en plus, c'est pas comme le pôle Nord. C'est pas une banquise. Ça veut dire il y a pas d'eau sous cette couche de glace. Il y a juste.
Je soulève un excellent point. C'est donc l'Arctique et l'Antarctique sont sont deux. Non, mais c'est hyper important d'en parler parce que l'Arctique et l'Antarctique, c'est deux environnements polaires, sauf qu'ils sont très différents. L'Antarctique, c'est un continent qui est recouvert de glace et de neige. Donc, ça veut dire que si on vire toute la glace, toute la neige, on va trouver un socle rocheux, on va trouver de la terre, on va trouver de la
pétrole.
Roche.
C'est un peu le problème avec la fonte des glaces, c'est qu'il y en a qui commencent à s'intéresser à ça aussi. Non, mais ça peut être très triste pour l'environnement.
Absolument. Et bon, aujourd'hui, c'est pas trop un sujet en Antarctique parce qu'il y a un traité qui protège ce grand continent. En revanche, en Arctique, c'est un environnement polaire aussi, mais c'est un océan. On appelle ça l'océan glacial arctique. Et cet océan, tu l'as dit, il est recouvert d'une banquise, donc de l'eau de mer gelée. Et le problème, c'est qu'évidemment, cette banquise, elle fond de plus en plus, à la fois en superficie, mais aussi en épaisseur. Et c'est là qu'il y a beaucoup de ressources naturelles accessibles parce que l'Arctique, ça appartient à la Russie, ça appartient au Canada, à l'Alaska, tu vois, au Groenland, c'est vraiment une région frontalière. Ouais. Et c'est là effectivement qu'il y a des ours polaires et que ça va devenir probablement des voies maritimes puisqu'ils se libèrent de plus en plus de la glace. Mais l'Antarctique, c'est un grand continent tout blanc dans lequel il n'y a rien, il n'y a que des bases scientifiques un peu partout.
Et justement, mais alors qu'est-ce qui te fascinait dans ces récits d'aventure? Tu disais, ouais, ça me fascinait. Mais c'est quoi qui te fascinait?
En fait, c'est l'idée de se dire que ces continents, ils sont vraiment à la frontière de la. Enfin, pour moi, c'était la dernière frontière sur Terre, quoi. C'est des environnements qui sont très peu parcourus, qui sont très. Dans lesquels, en fait, il n'y a rien. Et en fait, parce qu'il n'y a rien, on va chercher en soi des ressources auxquelles on n'aurait pas forcément accès si on était, je ne sais pas, en train de voyager en Asie où on aurait plein d'interactions, etc. Là-bas. C'est tellement pauvre au niveau des sens parce que c'est très blanc, il y a très peu d'odeurs, il y a très peu de couleurs. Et en fait, c'est autant un voyage géographique qu'un voyage intérieur. Alors, ça paraît peut-être un peu philosophique dit comme ça, mais moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment ça, c'était de me retrouver face à moi-même dans cet environnement tout blanc. Et il y avait une deuxième chose aussi, et qui était peut-être la motivation première de cette expédition, c'était de faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, parce que
pas les gens. A
priori, j'adore les gens et je suis ravi de partager cette aventure avec le plus grand nombre. Mais en fait, la solitude, c'est quelque chose qu'a priori on fuit tous. Enfin, je veux dire, on vit dans une société où voilà, on est connecté, etc. Et donc ça peut paraître bizarre de vouloir s'isoler pendant 50 jours dans un grand désert, un peu à la manière d'un ermite ou quelqu'un qui ferait une retraite. Mais moi, ce que je cherchais à vivre, c'était ce moment de solitude avec moi-même et rien qu'avec moi-même, sans rendez-vous, sans un téléphone qui sonne, sans rien. Et je trouvais que c'était un peu un luxe, en fait, que de s'offrir autant de temps pour soi et rien que pour soi. Moi, j'avais fini mes études à 26 ans. Je suis parti juste 6 mois après avoir fini mes études et je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie où prendre ce temps, en fait, pour faire un pas de côté.
Ouais, il y en a qui font un tour du monde. C'était un peu la mode il y a quelques années. Toi, tu t'es dit, tiens, et le pôle sud, pourquoi pas? Et si on allait poser un drapeau là-bas? Et justement, avant de revenir sur cette partie qui m'intéresse énormément, la partie psychologique sur le dépassement de soi, le dépassement mental, la gestion de la solitude, j'aimerais qu'on mette un pied aussi dans le côté concret. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu sais, parce que tu as quand même écrit le bouquin, est-ce que tu l'as de tête, un peu le listing presque exhaustif de ce que t'as emmené? Parce que là, c'est des températures qui vont taquiner les moins 20. C'est des choses qu'on a du mal à appréhender, surtout en France, parce que c'est des températures qu'on ne connaît pas dans notre quotidien. Quel équipement t'avais? Et surtout, parce que t'étais en autonomie, qu'est-ce que t'as dû prendre obligatoirement?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de partir dans cette aventure-là, moi, je suis pas parti en claquant des doigts, je suis pas parti un beau matin en me disant, allez, je vais aller au pôle sud. Ça a été vraiment un long process, c'était un long cheminement. Moi, je me suis entraîné d'abord 4 fois en Arctique. J'ai fait 4 expéditions de 15 jours. Ouais, au Spitzberg, en Norvège, au Groenland, à la fois tout seul, mais aussi avec des guides polaires professionnels qui étaient là pour me coacher, pour m'apprendre les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes. Parce que tu l'as dit, c'est un environnement qui est extrême, où il fait moins 20 degrés en moyenne. Donc, parfois, il fait effectivement moins 15, mais parfois, il fait moins 40. Donc, tout ça, il faut apprendre à gérer. Moi, je suis de Normandie à l'origine, donc je connais la pluie, mais le froid extrême, pas des masses. Donc, il a fallu évidemment apprendre à gérer tout ça. Et donc, c'est au fur et à mesure des expéditions que j'ai pu justement regarder quel était l'équipement qui me correspondait bien, la nourriture que j'aimais bien et qui résistait bien au froid. Mais pour te donner un petit peu la liste du matériel, il faut emmener du matériel qui soit léger et résistant au froid, qui soit facilement manipulable avec des gants. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une tente que tu peux monter assez rapidement dans le vent. Mais sinon, l'essentiel de ce que j'ai emmené, c'était de la la nourriture, parce que c'est ce qui était le plus lourd. J'avais à peu près 1,2 kg de nourriture par jour. Donc ça faisait peut-être 60... Ouais, ça faisait pour 6000 calories, 6500 calories. Il y avait...
Tu mangeais combien de fois? Tu mangeais 4 fois, 4, 5 fois par jour?
Tu manges un peu le matin et tu manges toute la journée et le soir. Mais tu manges beaucoup.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois... parce que c'est lyophilisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois t'arrêter, claquer ton réchaud ou c'est...
Non, t'as les techniques. Tu manges chaud, non, tu manges chaud qu'une fois par jour, donc que le soir. Et toute la journée, en fait, tu bouffes, tu manges du chocolat, des noisettes, des fruits secs, des barres, de la viande séchée, du fromage, du salami. J'avais du salami danois qui était vachement bien parce qu'il était tellement gras qu'il gelait pas. Mais ça, je l'ai mangé le midi. Et sinon, le soir, tu manges de la nourriture déshydratée. Donc, c'est de la nourriture dont on a extrait toute l'eau. Et tu la réchauffes, tu la réhydrates avec de l'eau bouillante. Tu touilles et tu attends 10 minutes et ça te recompose un plat.
Et tiens, en parlant d'eau, ouais. Je finis sur l'eau. C'est que tu avais ton réchaud, donc tu avais un peu d'essence. C'était un réchaud à essence, c'est ça?
Ouais.
Pour pouvoir prendre la glace de la banquise et en faire de l'eau que tu buvais directement et que tu utilisais pour manger, c'est ça?
Ouais, en fait, l'eau sous l'état liquide, elle n'existe pas parce qu'il fait moins de zéro en permanence, donc elle n'est que sous forme de glace et de neige. Donc pour moi, boire et manger, je prenais ma pelle, je creusais sous mes pieds, j'en sortais des blocs de glace et ces blocs de glace-là, je les mettais dans mon réchaud, enfin dans une casserole qui était sur mon réchaud et ça faisait fondre la glace et j'obtenais de l'eau directement. C'est de l'eau qui contient moins de minéraux que l'eau qu'on peut boire, le minéral ou même celle du robinet, et c'est pas dangereux de la boire, mais elle a fait effectivement pas vraiment de goût, et c'était comme ça que je me faisais de l'eau. Ouais, bah si, ça porte de l'eau, mais c'est ça qui il manque des minéraux.
Des oligo-éléments.
Je sais pas exactement ce qu'il y a dans l'eau, mais je m'en faisais à peu près 4 litres par jour. Et en fait, t'essayes de transpirer au minimum. Hein. Donc tu transpires pas non plus comme un phoque là-bas.
Je crois que c'est même dangereux finalement, parce que si tu commences à toi geler à l'intérieur, c'est fini.
Ouais, et tu peux avoir une hypothermie assez vite, surtout parce que, en fait, parce que si tu transpires, tes vêtements vont être mouillés, et comme il fait moins de 0 degré, dès que tu t'arrêtes, ils vont geler, et là, ça va te refroidir très rapidement.
Donc, c'est quoi les vêtements que tu avais? Parce que, là, en gros, il y a combien de couches? Enfin, c'est ton petit chandail avec, tu sais, là.
il faut, dans les environnements polaires, il faut multiplier les épaisseurs. En fait, on appelle ça un peu la stratégie de l'oignon, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un immense manteau très épais. Et rien en dessous, en fait. Il vaut mieux avoir plein de petites épaisseurs, donc un haut technique, et puis après un haut un peu plus épais, une polaire, et puis quelque chose de coupe-vent au-dessus de tout ça. Et en fait, c'est assez curieux, mais quand il faisait peut-être moins 20 ou moins 25, voire moins 30, j'étais pas si couvert que ça. J'étais pas si couvert que ça parce qu'en mouvement, quand tu tires 115 kilos, parce que c'était le poids du traîneau au départ, eh bien, tu produis un effort hyper important que quand tu bouges, en fait, tu n'as pas trop chaud et à la limite, vaut mieux avoir, si t'as un peu chaud, tu vas ouvrir tes vêtements, tout s'ouvrait sous les bras, sur le côté des jambes, et il vaut mieux ventiler.
Justement, pas transpirer et donc risquer.
Et dès que tu t'arrêtes, là pour le coup, c'est là que tu peux avoir froid et là tu mets une grosse veste en duvet sur toi. Mais dès que tu es en mouvement, t'as pas tellement froid. Après, sur les mains, tu as évidemment plusieurs épaisseurs, sur les pieds
plusieurs
aussi.
Plusieurs épaisseurs. C'est-à-dire tu as un sous-gant et gants ou même plus?
Oh, parfois, tu as trois paires de gants. Hein. Ouais, parce que c'est vraiment ça qui se refroidit le plus. Tu sais, dans le froid extrême, ton corps, il va pomper du sang pour tes organes vitaux et il va peut-être un peu oublier tes doigts de pied et tes doigts. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus susceptible de geler. Donc, tu as envie de vraiment bien les protéger.
Donc, si je vais dans le côté pratique, donc il y a quasiment... Tu avais un jeu de vêtements, en fait. Tu n'avais pas...
Ouais, parce que j'ai même pas répondu à ta question sur ce que j'ai emmené. Au niveau des vêtements, j'avais assez peu de choses. Effectivement, tu te changes pas beaucoup. Moi, j'ai changé de caleçon qu'une fois en 50 jours.
C'est la moyenne de beaucoup d'ados. Donc, ne te sens pas, tu vois.
je suis pas gêné. J'assume à 100%. Mais non, pas que je voulais pas changer de vêtements tous les jours. Mais en fait, tu n'as pas accès à une douche. Je t'ai dit, l'eau, je dois la fabriquer. Une fois que j'obtiens de l'eau, je dois la mettre dans des thermos. Donc, si je la laisse à l'air libre, elle va geler. Donc, en fait, c'est une denrée assez rare, l'eau. D'autant plus que je l'obtiens avec du combustible, avec mon réchaud.
Combien de temps tu fais pour fondre un glaçon en Antarctique?
Ça prend, le réchaud il est balèze, hein, donc ça prend, pour faire 4 litres d'eau, je mettais 1h30 environ.
C'est là où tu apprécies l'eau. C'est fou d'être entouré d'eau et de mettre autant de temps pour pouvoir en avoir.
Ouais, absolument, absolument. Donc tout ça me prend du temps et puis me coûte de l'énergie que je tire dans mon traîneau, donc du combustible. Donc en fait, pas de douche. Et donc si t'as pas de douche, bah tu changes pas tellement de vêtements. Ouais, je sais pas si c'est logique cette réflexion, mais en tout cas la raison c'est que je pouvais pas non plus tirer une quantité indécente de fringues. Après, bien ce sûr. Qui pesait lourd, je l'ai dit, c'est donc la nourriture. Et puis après, j'avais tout un matériel de réparation, tu vois, des pots de phoque en plus. J'avais ouais, bien sûr. Et puis j'avais pas mal d'électronique parce que je faisais un film documentaire pour la télé, donc j'avais plusieurs caméras, j'avais des trépieds, j'avais des micros, j'avais des panneaux solaires pour recharger tout ça. Parce que là-bas, il fait jour en permanence. Enfin, en tout cas, à l'époque où je suis parti, c'est-à-dire de novembre à janvier, il faisait jour tout le temps. Ouais. J'avais des batteries, puis j'avais évidemment ma tente, un sac de couchage, un tapis de sol. Même deux, hein. J'avais un tapis de sol en mousse et puis au-dessus un matelas gonflable
mais pour t'isoler,
pour bien s'isoler du sol.
Mais
en
c'est
fait.
Ça en fait le plus important, ouais. Parce que ça, je le rappelle jamais assez, mais c'est tu peux avoir le meilleur duvet du monde si ton corps n'est pas isolé, n'est pas différencié du sol, il va être conducteur et tu vas absorber le froid. Donc et c'est pour ça que les nouveaux tapis de sol gonflables, d'ailleurs maintenant il y en a des pas très chers comparé à avant. C'est vraiment un super investissement. Déjà parce que c'est confortable et parce que surtout, ça te protège
t'es bien isolé, hein.
du froid. J'aimerais qu'on arrive justement sur le début de cette aventure. Donc là, je pense que tu dois partir un peu de la pointe du continent sud-américain. Ça doit être Punta Arenas ou quelque chose comme ça, j'imagine.
Ouais,
on prend. C'est bateau ou hélico pour aller.
Alors, c'est avion. C'est un avion.
Ah, pardon. Merde, j'ai compris par hasard.
Ouais.
C'est le seul que j'ai pas dit. Et donc, t'arrives sur la base.
Ouais.
Vas-y, là on est avec toi, qu'est-ce qui se passe?
En gros, l'Antarctique, donc tu as trois portes d'entrée. Soit tu passes effectivement par l'Amérique du Sud, donc le Chili et la ville de Punta Arenas, soit tu passes par le Cap en Afrique du Sud, soit tu passes par la Nouvelle-Zélande. En fait, il faut vraiment se remettre dans la géographie, mais le continent, il est tout en bas de la Terre et le continent est tellement grand qu'en fonction de l'endroit dans lequel tu veux aller en Antarctique, tu peux passer par l'une de ces trois portes d'entrée. Moi, il se trouve que c'était Punta Arenas au Chili parce que le point de départ de mon expédition, il était le plus proche de l'Amérique du Sud. Et donc, moi, j'ai pris un avion de Paris pour aller jusqu'à Punta Arenas en passant par Santiago au Chili. Et de là, j'ai préparé mes petites affaires à Punta Arenas en achetant toute la nourriture que je n'avais pas pu envoyer en avance, c'est-à-dire tout le chocolat, toutes les cacahuètes, etc. Et j'ai tout préparé en isolant la nourriture dans des sacs journaliers de nourriture et puis en enlevant tous les emballages, etc. pour pouvoir, tu vois, être assez efficace une fois sur la glace et avoir seulement un sac de nourriture par jour.
Et puis gagner du poids aussi, hein.
Et puis tu gagnes du poids et puis en fait il faut être très organisé parce que là-bas c'est un congélateur permanent et tu as envie d'être le plus efficace possible. Et puis une fois que j'avais fini ça, j'ai pris un avion, un gros avion russe qui est un avion, je dis russe parce que c'est des Russes qui le pilotent, c'est un avion qui est assez particulier, c'est un avion cargo, donc il n'y a pas de hublot. Et je suis monté dans cet avion-là, j'étais pas tout seul, il y avait avec moi des scientifiques qui étaient en transit pour aller sur des bases scientifiques en Antarctique. Il y avait aussi quelques visiteurs, c'est-à-dire des gens qui vont faire l'ascension de la plus haute montagne d'Antarctique qui s'appelle le Mont Vinson. Il y avait des photographes qui allaient voir des manchots empereurs sur la côte. Et puis il y avait des gens qui venaient gérer un petit peu ce petit afflux de visiteurs pendant l'été austral, donc des cuistots, des logisticiens, et voilà. Et donc on est parti de Punta Arenas et cet avion-là, il nous a déposé, il a atterri dans une petite base qui s'appelle Union Glacier. Et à Union Glacier, tu as des tentes qui sont installées 3 mois de l'année, des tentes chauffées et qui accueillent justement ces gens-là. Et là, tu as un cuistot qui te fait à manger. Et puis, tu es un petit peu en attente de soit aller voir les manchots, soit bien d'aller sur la montagne, soit d'aller... Exactement. Et de là, c'est là que j'ai pu prendre un nouvel avion, mais cette fois beaucoup plus petit, à hélice. Et qu'on appelle un Twin Otter, c'est des avions canadiens. Et c'est assez dingue parce que c'est des avions qui viennent du Canada. Donc les mecs, ils descendent du Canada par petits sauts de puce. C'est-à-dire qu'ils descendent, parce que c'est des petits avions. Et donc ils font Canada, États-Unis, Mexique, Costa Rica, Pérou, Bolivie, jusqu'en péninsule antarctique et jusqu'à Union Glacier. Et là, cet avion-là, c'était vraiment le dernier vol avant le départ de mon expédition, parce que c'est l'avion qui allait me déposer sur la côte du continent. Ça, c'était, je m'en souviens très bien, c'était le 24 novembre. Et là, c'est peut-être le vol le plus émouvant de ma vie, si je peux dire, parce que je me rends compte, en fait, en regardant par le hublot, que je vais être déposé au bout du monde, que je suis au départ de mon expédition que j'ai imaginée depuis des années, et je suis un peu pris d'un coup de flip parce que à la fois je suis hyper excité par l'idée de commencer l'aventure, mais de l'autre, j'appréhende un petit peu les deux mois de solitude qui sont devant moi, et puis je vois le continent antarctique du haut et je vois que c'est tout blanc et qu'il n'y a rien, et je m'imagine moi Mathieu tout petit au milieu de ce grand désert sauvage, et forcément bah je regrette pas d'être là, mais je suis un petit peu ouais. stressé quoi.
Tu m'étonnes. Et c'est marrant, c'est la solitude, c'est l'appréhension de la solitude qui est arrivée en fait, te dire je vais être coupé du monde pendant deux mois, c'est même pas le danger. Parce que là, typiquement, sur ton trajet, admettons, il t'arrive quelque chose, parce que j'imagine que ça, tu l'as évalué aussi, tu as dû évaluer les risques, tu es en plein milieu de ta trajectoire, de ton trajet, il t'arrive un truc, tu as ton téléphone saleté, tu l'allumes, combien de temps pour arriver pour te sauver ?
Je vais te répondre, mais avant ça, je vais parler des dangers. Effectivement, il y a les dangers, bon, tu les connais peut-être, mais c'est surtout les crevasses. En fait, dans ce grand continent blanc qui est recouvert de glace et de neige, toute cette glace et toute cette neige, elle bouge pas très vite, mais elle bouge. Enfin, faut savoir qu'au pôle sud, il y a 3000 mètres d'épaisseur de glace. Donc, quand t'es au pôle sud, t'as 3 km d'épaisseur de glace sous les pieds. Et donc, toute cette glace qui s'est accumulée sur le continent, elle finit forcément par craquer et par bouger. Et donc, ça ouvre des grandes crevasses qui sont souvent recouvertes par des ponts de neige. Les ponts de neige, c'est une accumulation de neige au-dessus des crevasses. Et parfois, ça cède. L'avantage, c'est que moi, j'avais travaillé mon itinéraire avec des images satellites précises du continent et avec des professionnels qui opèrent régulièrement en Antarctique. Et donc, je savais où étaient les champs de crevasses les plus importants, et il fallait les contourner, les éviter et être vigilant avec mon GPS et ma boussole. Mais le danger principal, c'était ça. Surtout quand tu es en solo, parce que tu dépends que... Enfin, il n'y a que toi et tu ne peux pas t'encorder avec un pote. Donc ça, c'était le danger majeur. Et le second, c'était vraiment le froid, parce que les blessures du froid, ça peut venir vite avec le vent. Tu peux rapidement avoir des engelures et le vent aussi. Le vent, parce que le vent, ça peut emporter ton matériel. C'est-à-dire quand tu montes ta tente dans du vent fort, si tu la laisses échapper et que tu n'en as pas de rechange, tu n'as plus de tente. Donc,
t'en avais une de rechange quand même ou pas?
Mais non, j'en ai pas pris. Alors ça, mais je vais t'expliquer un petit peu la raison.
Ah ouais, parce que là c'est bizarre, parce que t'es là, tu penses à autre chose, c'est vite arrivé, genre hop, c'est parti au vent. Enfin, tu sais, on a.
En fait, et puis je te répondrai après sur la sécurité. Mais en fait, tu me demandais au départ qu'est-ce que j'ai emmené, et en fait, quand tu pars sans ravitaillement, donc comme je l'ai fait en partant avec tout ce dont t'as besoin. Et tu peux pas non plus tirer des centaines et des centaines de kilos. Moi déjà j'avais 115 kilos, et tu dois forcément faire des choix sur ce que t'emmènes en double ou pas. Donc moi il y avait des choses que j'ai absolument emmenées en double, comme téléphone satellite, GPS, boussole, réchaud, fixation de ski, tout ce genre de choses en fait qui, si elles cassent et que j'en ai pas en rechange, je dois arrêter l'expédition parce qu'une
tente t'aurais pas arrêté si
alors la tente. En fait, la tente, c'est un vrai sujet, la tente, mais ça pèse 3,5 kg parce que c'est des tentes assez balèzes. C'est des tentes qui sont assez importantes en termes de volume et de poids parce qu'elles sont résistantes au vent. Et en fait, c'était une vraie question. Là, j'ai fait le choix de ne pas en prendre parce que sinon, en fait, ça peut jamais s'arrêter. Tu vois, tu peux aussi tout prendre en double. Et en fait, 3,5 kg, c'est quand même beaucoup. Et le poids est quelque chose qui est vraiment primordial pour réussir ce genre d'aventure. Et mon choix a plutôt été d'être hyper vigilant quand je monte ma tente, c'est-à-dire de systématiquement, qu'il y ait du vent ou pas, que je sois fatigué ou pas, d'attacher cette tente-là au traîneau avec un mousqueton, tu vois. Et en permanence, quoi. Quand je la montais, quand je manipulais la tente, à chaque fois, je l'attachais au traîneau. Et puis, quand tu répètes l'opération en entraînement tout le temps et que tu le fais tous les soirs et tous les matins, finalement, ça devient une mécanique bien huilée. Et même si elle t'échappe des mains par malheur, elle sera retenue par le traîneau. Mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Et je touche du bois pour que ça m'arrive pas. En revanche, en entraînement, ce qui m'est arrivé, c'est que mon tapis de sol s'envole dans le vent parce qu'une bourrasque l'avait fait un gros coup de vent l'avait remporté. Et voilà. Mais la tente, non, toujours attachée au traîneau et ça suffit. Après, bon, en cas de cas extrême, tu peux toujours vider ton traîneau et t'allonger dedans et appeler les secours, tu vois. Enfin,
justement, est-ce qu'on va avoir la réponse à cette fameuse question? Combien de temps ils mettent, les mecs? Combien de temps? Parce que...
faut savoir que pendant l'été austral, il y a des avions qui peuvent voler en Antarctique parce qu'il fait pas moins 80 degrés. L'hiver, il fait nuit tout le temps et il fait jusqu'à moins 80 degrés. Donc là, tu n'as aucune logistique aérienne qui opère sur le continent. Pendant l'été austral, il fait jour et il fait minimum moins 40 et là, les avions peuvent voler. Et combien de temps mettent les mecs? C'est une très longue réponse pour te dire que ça dépend de la météo. C'est-à-dire que ça dépend de la visibilité, ça dépend de leurs conditions d'atterrissage. Donc si tu es sur un endroit qui est à peu près plat, ils peuvent atterrir. Il faut savoir que ces petits avions à hélice, c'est des avions qui sont montés sur des skis, sur des patins. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une piste d'atterrissage, ils peuvent atterrir directement dans,
ouais,
dans
moi, la, ce qui m'intéresse, c'est même le temps de trajet, en fait.
Et le temps de trajet, donc le pôle sud, il est, moi, mon expédition, elle faisait à peu près 1200 km de long en termes de distance. C'est des avions qui vont pas très vite, qui vont à peu près à 300 km à l'heure. Donc, situés au milieu, ils vont mettre à peu près 2 heures. Le vol retour. Ouais, ça va. Ils sont pas trop loin. Après, il faut qu'ils puissent atterrir, il faut qu'ils puissent avoir de la visibilité. Donc, il faut en fait surtout être prêt à avoir suffisamment de nourriture et de combustible pour attendre dans ta tente que des secours viennent te chercher si jamais
mais
tu en as besoin.
Mais il y a une permanence, c'est ça que je me dis. Il y a un mec qui est là qui attend ton coup de fil quand même. Parce que ça se trouve, le mec qui pionce, il dit attends, écoute, là, c'est 4 heures du mat. On se voit demain matin, quoi.
Ouais, alors en fait, pour aller en Antarctique, c'est complexe parce qu'il te faut des autorisations. Il faut montrer que quand tu pars en solitaire, que tu as une expérience de ces expéditions-là. On te fait confiance que si tu as été un petit peu validé par des professionnels qui connaissent le terrain. Donc moi, ça avait été mon cas. J'avais enclenché ce processus-là bien avant, en fait, de partir. Et donc, une fois que tu as validé tout ça, tu as ces personnes-là avec qui tu es en contact qui gèrent le vol, en fait, déjà de Punta Arenas sur la base, qui te nourrissent sur la base et qui après te prennent en charge avec cet avion qui te dépose sur la côte du continent. C'est même eux aussi qui m'ont ramené du pôle sud. Et en plus de tout ça, tu as effectivement des gens qui regardent où tu es. Moi, en termes de sécurité, je leur téléphonais tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, je leur donnais ma position par téléphone satellite en leur disant « Les gars, voilà, je suis à tel endroit, voilà comment je me sens. » Et si j'oubliais de le faire ou si je le faisais pas pendant 48 heures d'affilée, ils envoyaient un avion sur ma dernière position connue, que je le veuille ou non. Donc, si tu veux, il y avait cette sécurité supplémentaire. Et puis, j'avais en plus une balise que je portais sur moi et qui émettait ma position en direct. Mais tu as des gens qui regardent où tu es et qui essayent de regarder comment
de back-upé,
tu vas.
De back-upper, de savoir si tu te déplaces. Parce que si tu bouges pas pendant 2 jours, c'est pareil. J'imagine que ça doit, c'est qu'il a dû t'arriver quelque chose, etc.
Exactement.
Donc, c'est une vraie logistique. On n'y va pas genre, je mets un petit polaire, je tire un traîneau et c'est parti, quoi, évidemment. J'aimerais qu'on rentre justement dans l'aventure maintenant qu'on est parti sur le concret. C'est, t'es là, t'es sur tes skis, il y a l'avion qui t'a déposé, tu regardes devant, j'imagine qu'à part du blanc, pas grand chose. Raconte-nous un peu comment c'est passé.
Moi, j'avais toujours pensé, imaginé et rêvé être déposé tout seul sur la côte du continent. Et en fait, j'étais déposé avec d'autres personnes. C'était assez curieux, mais en fait, il y avait d'autres personnes qui tentaient la même expédition que moi. Je vais t'en parler après. Et finalement, ça faisait du bien de pas commencer tout seul parce que c'est assez terrifiant. On est vraiment au bout du monde, comme tu l'as dit. Il y a du blanc partout. Tu fais un 360 autour de toi, c'est vraiment que de la neige et que de la glace et que du blanc. Donc tu te retrouves dans ce truc-là qui est assez impressionnant quand même. Et puis c'est vertigineux, quoi, parce que devant toi c'est l'infiniment blanc et donc la seule façon de se repérer, c'est de prendre ta boussole et de récupérer ton cap avec ton GPS et d'aller tout droit, quoi. Mais donc une sensation d'accomplissement d'une certaine façon, parce que la difficulté dans ce genre d'expédition, c'est aussi la préparation, c'est la recherche de partenaires, de sponsors. Et là, le fait d'être sur la ligne de départ, c'est déjà, tu vois, une victoire en soi. Donc moi, je suis hyper heureux de pouvoir enfin commencer cette aventure. Et puis je me dis que chaque pas me rapproche de mon objectif et que finalement, déjà être arrivé là, c'est une victoire. Et puis maintenant, on va tout faire pour atteindre le pôle. Et puis, forcément, de l'appréhension, parce que la solitude arrive et mes coéquipiers que je vois au début de l'expédition, je les perds tout de suite de vue. En fait, tout le monde s'imagine qu'on peut un peu faire route ensemble, mais en fait, déjà, on était tous indépendants. Moi, je la faisais en solitaire, cette expédition. Et pour donner un peu une comparaison, c'est un petit peu comme quand tu pars dans des courses à la voile. enfin, disons par exemple le Vendée Globe, tous les mecs et les femmes qui prennent le départ, ils prennent le même départ, et puis après ils choisissent un cap, et puis ils s'y tiennent, et puis ils s'éloignent, et puis parfois bon, ils peuvent se croiser éventuellement, mais c'est tellement vaste, c'est tellement immense que finalement bah, chacun part à sa vitesse en suivant un petit peu son cap, et t'as assez peu de visibilité en fait. Quand t'as des nuages bas, la visibilité d'un homme sur la glace dans du blanc infini, c'est peut-être 1 ou 2 kilomètres. Tu peux pas avoir quelqu'un d'aussi loin, donc tu disparais en fait assez vite dans le paysage. Et moi, les personnes avec qui je suis parti, je les ai vues la première journée, et puis après, je les ai plus jamais recroisées. Et puis il se trouve que elles ont abandonné en cours de route, donc j'étais pas prêt
de les retrouver.
Bah, en fait, il y a eu beaucoup d'abandons. On pourra en parler, mais la saison 2018 en Antarctique, elle a été très compliquée parce qu'il a fait très chaud en fait. Ça peut paraître surprenant quand on parlait des
températures. Ah non, on était venu pour avoir du froid, on a eu trop chaud, nous on arrête. C'est pas ça, on n'a pas signé pour ça, merci quoi.
On n'a pas dit que c'était les tropiques quoi. Non, mais il a fait très chaud sur les premières semaines. Il faisait entre moins 5 et moins 10 degrés et ça s'accompagnait de chutes de neige importantes. Et finalement, quand tu as beaucoup de chutes de neige et que tu as de la neige profonde, bah, ton traîneau il s'enfonce dans la neige, tes skis aussi. Était beaucoup plus lent que ce que tu avais imaginé.
Sur la glace, bien sûr.
Et il y en avait qui avaient pris des risques sur la quantité de nourriture qu'ils avaient emmenée et qui n'ont absolument pas pu tenir le rythme qui était nécessaire pour arriver au pôle. Moi, j'avais la chance d'avoir été assez prudent sur la quantité de nourriture. 50 jours, c'était plutôt assez raisonnable. Et ça m'a permis de m'ajuster et de me rationner en fait assez tôt quand je voyais que j'étais lent. Mais on était 7 expéditions à tenter l'aventure. Et finalement, on n'est que 2 à être arrivés au pôle sud. Il y a un militaire des forces spéciales qui est arrivé au pôle avant moi d'ailleurs, qui était plus rapide, et puis à moi.
Mais d'un tous côté, les autres, t'imagines, tu leur as foutu la rage. Hein. Un petit mec comme ça, il sort de ses études, il met à l'amende le mec des forces spéciales.
Non, le mec des forces spéciales est arrivé. Hein. Le mec des forces spéciales est arrivé, mais les 5 autres, bon, il y avait tout. Hein. Il y avait des gens qui avaient fait l'ascension de l'Everest, d'autres qui étaient au pôle Nord.
C'est marrant le même jour, parce qu'en fait, ils organisent un peu, j'imagine, parce que la logistique fait qu'il y a un moment, on va pas partir tous les jours, les mecs. C'est tel jour, on rassemble tout le monde, yalla.
Alors, il y avait des gens qui étaient partis avant moi. Il y avait un Italien, notamment, qui était parti 3 semaines avant moi. Il y avait des gens qui sont partis après moi. Et il y en a qui sont partis en même temps que moi. Et si effectivement on est partis en même temps que moi, c'est que quand on était à Union Glacier au début, on attendait en fait le petit avion à hélice pour qu'il nous dépose. Et la météo était pas terrible. Et au bout de 5 jours, il y a eu une fenêtre météo. Et plutôt que de dire, on va déposer Mathieu, et puis dans 2 jours, on va déposer un tel, ils ont dit, si vous voulez, allez-y tous ensemble si vous êtes d'accord. Et on était tous d'accord pour. Voilà, on était trois équipes à partir.
Et justement, quand t'as très vite. T'as perdu les gens, tu te retrouves justement, là on revient sur le côté de la solitude, tu commences à enchaîner un peu les journées, les heures, les efforts. En plus, si tu me dis que t'as une couche, en fait, c'est même pas un espèce de gros truc qui glisse, c'est un truc que tu dois traîner à moitié dans de la boue, pour ce qu'on peut imaginer, parce que c'est de la neige, mais ceux qui connaissent bien la poudreuse, c'est un enfer, ça pèse une tonne. Comment t'as évolué? Ça a été quoi la courbe d'évolution du mental et surtout de la gestion de la solitude?
Ça a été complexe parce que cette aventure-là, elle est difficile, même quand les conditions sont bonnes, évidemment. Mais cette difficulté supplémentaire de neige molle, ça a été quelque chose d'assez difficile à gérer parce que moi, il fallait que je fasse environ une 20aine de kilomètres par jour. En moyenne, pour arriver au pôle en 50 jours d'autonomie alimentaire. Sauf que dans les premières semaines, moi, je faisais entre 6 et 12 kilomètres parce que le traîneau, en fait, s'enfonçait vraiment dans la neige et très rapidement, j'ai réalisé que.
Oh là là.
Ouais, c'est terrible. Non, mais vraiment, le moral et c'est pour ça aussi que beaucoup d'expéditions ont abandonné. Et moi, j'ai pensé évidemment abandonner plusieurs fois. Mais comment tu gères ça? En fait, moi, j'ai très rapidement compris qu'à ce rythme-là, ça n'allait pas marcher. Donc, je me suis dit. Soit je continue à marcher et puis j'abandonne quand j'ai plus de nourriture, soit j'essaye plutôt d'élaborer une stratégie et de pas me laisser faire. Et cette stratégie a été la suivante, ça a été de me rationner très tôt. Donc comme j'avais vu large sur la nourriture, en fait j'ai mis de la nourriture de côté tous les matins pour me dire je vais pas avoir 50 jours de nourriture, mais si je me rationne très tôt, je vais avoir pas trop faim parce que je vais enlever des petites quantités tous les jours. Mais si je fais ça tous les jours pendant plusieurs semaines, je vais pouvoir tenir 55 voire 57, 58 jours et comme ça j'allonge ma longévité, si je peux dire, sur la glace. Ça, c'était la première motivation. La deuxième, ça a été d'allonger mes journées de ski. Moi, au début, je pensais skier 8-9 heures par jour, ce qui est déjà une bonne journée. Et en fait, rapidement, je me suis dit, il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et faire plus. Et donc, je me suis dit, j'ai allongé mes journées de ski à 12 heures. Et donc, je commençais mes journées à 7h30 du matin et puis je les terminais vers 8 heures du soir. Et ma façon de fonctionner a été très militaire, très routinière, très cadrée, mais j'avais besoin de ça pour pas craquer. C'est-à-dire que je faisais des sessions d'une heure de ski et se passait de 5 minutes de pause. Et donc, je commençais le matin à 7h30 du matin et je faisais une pause à 8h30. Je mangeais pendant 5 minutes et je repartais après pour une heure de ski et après une pause de 5 minutes. Et en fait, je fractionnais comme ça toute ma journée de ski. Et en fait, ça a été payant parce que ça me permettait de me concentrer vraiment sur du court terme. En fait, j'ai réalisé que si le matin, je pensais à l'arrivée, si je pensais au pôle sud, si je pensais à la ligne d'arrivée, en fait, c'était complètement désarçonnant et complètement démotivant parce que ça paraissait tellement lointain, tellement difficile, tellement compliqué d'appréhender encore 35 jours de solitude dans ce grand désert. Et je me disais que voilà, il fallait vraiment évacuer ça de son esprit et se concentrer sur du court terme, sur des petits objectifs, sur des petites victoires parce que c'était la seule façon, en fait, de rester motivé. Et donc, le matin, je partais pour une heure, je me mettais un podcast d'une heure ou un album de musique que j'aimais bien, je pensais à la pause chocolat que j'allais faire à 10h30. Et ça fonctionnait comme ça, en fait, vraiment petit pas par petit pas. Et puis, au fur et à mesure, je progressais lentement, mais je progressais. Et heureusement, quand je suis arrivé à 1600, 1700 mètres d'altitude, là, il a commencé à faire froid et la neige est devenue beaucoup plus compacte. Le traîneau aussi est devenu beaucoup plus léger parce que c'est toute la nourriture que je mangeais. Et là, j'ai pu accélérer et j'ai pu rattraper mon retard et je suis arrivé en 50 jours et 3 heures, donc dans le temps que je m'étais fixé, mais au prix de quand même de gros efforts puisqu'il y avait 12 heures de ski tous les jours, pas de jour de repos, alors que moi j'avais prévu d'en prendre. Donc c'était quand même des grosses semaines.
Comment tu sais, je pense que souvent le gros problème que peuvent rencontrer les gens dans un challenge, dans un projet, dans la vie de tous les jours, et pas forcément dans le voyage, mais c'est de se dire, en fait, là, je suis au bout. En fait, j'en ai marre ou j'en peux plus. J'ai plus d'énergie, j'ai plus la motivation. Qu'est-ce qui a fait que toi, quand j'imagine que t'as dû taquiner un peu ces zones-là dans ta tête,
bien sûr,
comment t'as fait pour rebondir, en fait, et pour aller jusqu'au bout? Est-ce que justement, t'as continué à avancer tout en ayant cet état d'esprit-là? Est-ce que t'étais projeté? Est-ce que t'as eu des techniques mentales pour surpasser? Ça a été quoi les choses qui ont fait que t'as réussi? Alors,
j'ai peut-être la tête un peu dure, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être obstiné pour essayer de se relever quand c'est difficile. Moi, il y a quelque chose que je me répétais en permanence, c'était que l'inconfort, la douleur, la difficulté, c'est des choses qui sont temporaires. C'est pas des choses qui vont durer toute la vie. Je vais pas être, il y a bien un moment où je vais me sortir de tout ça, et donc il faut bien se rappeler que tout ça est temporaire. Après, moi, je me rappelais aussi que c'était un choix d'être là. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qu'on m'avait imposé, c'était quelque chose que j'avais choisi, que j'avais mûri, que j'avais vraiment, travaillé de longue date. Et donc, j'essayais de me rappeler un petit peu des raisons qui m'avaient poussé à entreprendre cette aventure-là. Parce que, voilà, c'était quelque chose de construit, de lointain. C'était vraiment une envie très forte. Et donc, effectivement, oui, c'est difficile, mais je l'ai voulu. Et donc, j'essayais. Et d'ailleurs, c'était le parrain de mon expédition, donc Jean-Louis Etienne, qui me l'avait dit avant que je parte. Il m'avait dit, remets ton rêve de pôle sud à la surface en permanence. Et ça, je trouvais que c'était très beau parce que c'était effectivement ça, en fait, qu'il fallait réanimer dans les moments difficiles. C'était de remettre ce rêve qui m'avait animé et qui m'avait tenu toutes ces années de préparation à la surface quand c'est dur et que t'es en retard et que tu manques de nourriture et que la neige est molle. Et en fait, je crois que c'est un petit peu ça qu'on peut peut-être chacun employer dans nos vies perso, pro, quand on a des difficultés. C'est essayer de revenir un petit peu sur le pourquoi de l'entreprise ou du projet ou de la raison, de ce qu'on est en train de faire. De se remémorer les motivations. Peut-être qu'elles ont changé entre deux et à ce moment-là, on peut-être changer de stratégie ou abandonner ou quoi que ce soit. Mais si on arrive vraiment à se replonger dans les raisons premières qui nous ont poussé à entreprendre cette aventure-là, et je crois que ça aide à avancer. Et quand on se dit que c'est temporaire, et on trouve des solutions. Mais sinon, moi, je trouvais des techniques mentales pour.
Quoi?
C'est
quoi, tu récitais l'alphabet, je sais pas.
Non, mais on. Enfin, on, en fait. pour oublier un petit peu ce qui se passe et ce qu'on fait, et pour se mettre un peu dans une posture un peu de, enfin, automatique, si tu veux. Bon, moi, j'ai jamais fait de méditation ou de yoga, mais je pense qu'on peut trouver un petit peu ces techniques dans ces domaines-là. Mais j'ai essayé de me projeter dans l'avenir, de penser à la suite, à l'après. J'essaie de visiter des souvenirs, c'est-à-dire que j'essaie de me souvenir d'aventures passées, et de me souvenir, voilà, comment j'étais allé à tel endroit et comment, avec qui, quelle période de l'année, etc. Et en fait, c'est une gymnastique intellectuelle qui fait que bah, tu oublies un petit peu que tu marches, que tu skis, et puis tu t'évades de cette façon-là. Et c'est un peu des subterfuges parce que bah, tu es toujours bien présent sur la glace, mais tu penses à ce genre de choses. Et puis parfois, tu utilises des moyens un peu plus artificiels, et comme de la musique et des podcasts, mais ça m'aidait à tenir.
Je trouve ça en fait assez extraordinaire, le fait que finalement tu vas vivre ce genre d'aventure pour t'ancrer dans l'instant présent et aller chercher finalement ce qu'il y a en toi pour ressentir et te couper un peu de tout le marasme de la vie quotidienne, de la sollicitation extérieure, pour au final te rendre compte qu'au bout d'un moment c'est tellement plus répétitif, monotone, que justement pour garder la pêche et la motivation, et ben finalement tu vas aller pas t'enfuir, mais tu vas aller retourner ailleurs dans ta tête en fait.
Et je pense que
la mécanique, elle est assez folle, je trouve, de se dire je m'ancre là, mais en fait il y a un moment, c'est beaucoup plus sain des fois de partir pour mieux revenir en fait.
Ouais.
Et c'est enfin, je pense que ça doit pas être facile à gérer.
Non, mais partir pour mieux revenir, c'est très vrai. Moi, je suis revenu au Chili après l'expédition en janvier, et quand je suis revenu, donc j'ai repris cet avion russe énorme, et il est arrivé au milieu de la nuit à Punta Arenas, et la nuit, moi, je l'avais pas vu depuis 2 mois. Et en arrivant, j'avais complètement oublié l'existence de la nuit, quoi. Ça faisait 2 mois qu'il faisait jour en permanence. Et puis surtout dans l'air, il y avait une espèce d'humidité, des odeurs de chlorophylle, des arbres, etc. Et là-bas, en Antarctique, c'est un environnement qui est très sec, qui est très stérile. Et donc, on sent rien, en fait. Et le fait d'arriver là-bas, je me suis dit, mais waouh, quoi, c'est la vie, quoi. C'est le monde que j'ai laissé derrière. Et en fait,
tu le redécouvres.
Et c'est incroyable. Enfin, c'est des sensations de dingue. Comme mes sens avaient été mis un petit peu en sommeil. Et c'est vrai que tu pars pour mieux revenir et tu réapprécies de mettre des baskets, un jean, de pouvoir prendre une tasse de café sans gants, de prendre une douche. Et bon, c'est tout ça.
La première douche, à mon avis, elle a dû être bien longue, bien chaude.
Mais je crois que j'ai vidé le ballon d'eau chaude du premier étage de l'hôtel parce que je suis resté trop longtemps. Mais ouais, c'était assez canon, la douche.
C'est incroyable. Et justement, sur la partie, on a vu justement l'aspect mental, l'aspect physique aussi. Enfin, on fait 12 heures de sport, enfin, fait 12 heures de sport intense par jour. Enfin, c'est rare de faire ce genre d'effort, même si on s'est entraîné, l'entraînement n'a jamais été, je pense, à ce niveau élevé. T'as pas eu, tu sais, des crampes ou la jambe qui tétanise, le fait que, tu sais, t'as plus de force, t'arrives plus, et ça t'est pas arrivé ça?
Mais alors, moi, j'ai évidemment préparé physiquement cette expédition. Je l'ai préparé en travaillant surtout l'endurance, donc plus que la force physique. Si tu veux, je me suis pas entraîné dans une salle de muscu à soulever de la fonte. Je me suis surtout entraîné en fait à faire du sport d'endurance, donc du vélo et de la course à pied. Et j'avais fait quand même beaucoup de courses d'ultra-endurance, donc des marathons, des doubles marathons, une course
s'appelle
le marathon.
T'as taquine, attends Mathieu, je savais pas, disons. Attends.
Si, bah, il faut bien. Il
ah
faut
d'accord.
Bien, quand même, parce que...
On dirait non, pas. On dirait non, bien.
C'est surtout pour en fait apprendre à se connaître soi-même dans cet effort de longue durée, quoi. Et moi.
Bien sûr.
Plusieurs années auparavant, j'avais participé au Marathon des Sables, à une course de vélo qui s'appelle la Transcontinental Race, qui est une course à travers toute l'Europe, à des triathlons de longue distance comme des qui s'appellent des Ironman. Donc si tu veux, c'était vraiment pour pas du tout pour être rapide, parce que moi je suis pas quelqu'un qui court vite, mais je peux courir assez longtemps, et ça se travaille en fait. Et enfin, tu vois, je voulais pas du tout arriver en premier de ces courses là je voulais vraiment arriver en bon état et apprendre justement à composer avec tu vois, l'effort, la douleur, le sable dans les chaussettes, les cloques, le manque d'hygiène, parce que c'est des courses qui sont en autonomie, enfin pour parler du désert du marathon des sables par exemple. Et donc, si tu veux, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travailler au fur et à mesure du temps. Mais c'est vraiment cette endurance-là, moi, qui m'a fait tenir. Et donc, quand je me suis retrouvé en Antarartique, oui, je pensais pas skier 12 heures par jour. Je pensais prendre des jours de repos, mais grâce à ces expériences, en fait, j'avais des points de repère. Enfin, j'avais des points de repère avec ces courses à pied et ces courses de vélo. Et je me disais, parce que je savais que je les avais terminées et en les préparant, je me disais, voilà, si j'arrive à terminer le marathon des Sables, si j'arrive à terminer la transcontinentale, et ben, peut-être que j'arriverai à terminer une expédition plus longue, parce qu'en fait, voilà, c'est la somme de plein de.
Bien sûr. Mais finalement, t'as pas eu ces moments-là, en fait, de tétanie de les muscles ou qui te paralyse, quand je dis putain, qui t'oblige à ne plus avancer. Ça, t'as pas eu grâce à tout ça.
J'ai pas eu aussi parce que l'effort en tant que tel, c'est un effort, bon, oui, qui est intense, mais c'est pas un marathon, on court pas à la vitesse d'un marathon pendant 12 heures, tu vois, c'est une marche lente. Moi, je me déplace entre 2 et 3 km par heure, donc c'est un effort qui est assez doux, j'ai envie de dire, malgré le fait que tu tires quand même quelque chose de lourd, mais c'est une démarche assez lente qui demande assez peu de technique parce qu'on est sur deux skis et on tient deux bâtons dans chaque main et puis on pousse avec ses bras et finalement en fait la difficulté c'est juste de marcher longtemps et de pas craquer quoi, mais il n'y a pas de trop de douleur sur les muscles parce que c'est comme une longue marche, on n'est pas dans la course véritable quoi. Donc et puis le fait de séquencer tout ça et de prendre des pauses régulières et de bien manger, de bien boire, d'essayer de se reposer bien le soir, en fait c'est plus mental que physique. C'est souvent quelque chose que je dis, c'est que le combat il est pas physique, il est mental quoi. Moi je dis c'est 70% dans la tête, 30% dans les jambes, donc faut avoir un bon fond physique, mais faut surtout bien se connaître sur le plan psychologique.
Justement, j'aimerais pour finir sur cette partie mentale et de la solitude. Enfin, je pense que tu as eu le temps pas mal de refaire toute ta vie, refaire toutes les scènes de ta vie, des trucs futurs, d'imaginer. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, cette aventure? Je pense que chaque grand défi, même si le marathon des sables, peu importe ce qu'on fait, c'est sportif, ça nous apporte des choses sur nous-mêmes ou sur notre vision de la vie. Cette scène-là, ça a été quoi?
En fait, c'était un peu un reboot, quoi, parce que tu prends du temps pour toi de manière très prolongée, quoi.
Bien sûr.
Tu prends 50 jours pour toi. Ça n'arrive jamais dans la vie d'avoir autant de temps avec soi, même si tu vois, on passe, je sais pas, une semaine tout seul chez soi ou un week-end tout seul chez soi, on va quand même appeler des potes au téléphone.
Vipassana, c'est 10 jours ou c'est 30 jours les grosses retraites Vipassana. Donc,
ouais, tu vois. Mais alors ça, j'en ai jamais. Toi, t'en as fait une, hein?
Ouais, de 10 jours. L'entrée de gamme, tu vois. Mais, la première, celle que tu fais pour débuter.
Plein de choses similaires, c'est sûr. Et encore là, c'est pas la même chose parce que moi, je pouvais parler, c'était moins codifié que toi, mais c'est un luxe un peu d'avoir tout ce temps pour soi, et ça n'arrive jamais dans la vie à moins de faire une retraite Vipassana comme tu as pu le faire. Mais quand t'es tout seul chez toi, tu vas quand même faire tes courses, tu vas quand même avoir des gens au téléphone, donc c'est pas une vraie solitude. Donc déjà pour moi, c'était hyper intéressant que de me retrouver face à moi-même, à mes envies, à mes doutes, mes anxiétés, mes forces, et ça te permet de mieux te connaître parce que c'est une situation qui est inédite. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Moi, ça m'a appris, et ça, je peux le dire qu'à posteriori, parce que j'ai atteint mon objectif en arrivant au pôle, mais même si je ne l'avais pas atteint, j'aurais eu énormément d'apprentissage, mais qu'en mettant en place une stratégie qui a été vraiment de se rationner, de skier par petits pas, d'avoir des petits objectifs, des petites victoires, et de ne pas penser à l'arrivée, mais en même temps de gérer tout ce sur quoi tu as un contrôle, c'est-à-dire ta respiration, ta nourriture, ta façon d'avancer, et puis d'essayer de délaisser de tout ce sur quoi tu n'as aucune emprise, c'est-à-dire la météo, le vent, etc. Et ben, ça m'a appris justement à me recentrer ce sur quoi j'avais une influence, un contrôle, et de me dire que voilà, les objectifs ambitieux, ils s'atteignent qu'avec des petits pas, qu'avec des petits objectifs, et que ça, c'est vraiment une leçon pour la vie, et que tu peux réappliquer ça à plein d'autres domaines maintenant que je suis rentré dans ta vie perso, dans ta vie pro. Et c'était vraiment la mise en pratique de plein de choses. Et donc ça, moi, je me savais pas capable, en fait, d'être aussi militaire et aussi stratégique dans ma façon de faire. Mais quand j'ai vu que mon rêve de Pôle Sud allait me passer sous le nez avec cette météo un peu exécrable du début de l'aventure, c'est le moyen que j'ai trouvé pour ne pas abandonner et pour pas lâcher, quoi. Et donc ça, c'était hyper enrichissant. Et puis la deuxième chose qui est un peu plus personnelle, c'est que je me suis un peu isolé du monde parce que j'ai quitté mes potes et ma famille pour vivre cette aventure-là. Donc c'est quand même un vrai choix perso. Et que finalement, le fait de s'isoler du monde, ça m'a en fait donné... Enfin, ça m'a... j'ai réalisé qu'en fait c'est ce qui était le plus important à mes yeux, quoi. C'était que ça peut paraître un peu bleu de dire ça, mais qu'en fait les copains, les proches, en fait c'est ça le plus important. Et le fait de s'en séparer et de partir dans un environnement aussi extrême, on se rend compte qu'en fait tout le reste n'a aucune importance. Et tu vois, moi c'est, enfin je me souviens que j'avais écrit à ma famille en leur écrivant quasiment une lettre d'amour, parce que bah, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Et nous, on n'est pas une famille où on va forcément, tu vois, se dire qu'on s'aime tous les 3-4 matins. Et en fait, quand tu te retrouves là-bas et que tu vis ça et que tu es isolé parce que tu es vraiment le seul homme sur Terre là-bas, en tout cas, c'est la sensation que tu as, et bah, tu te rends compte qu'en fait, tu te rends compte vraiment ce qui a une valeur et une importance. Et ça, tu as tendance peut-être à l'oublier quand tu es en ville et que tu voilà, tu as une vie très remplie et débordée comme je pouvais la mener avant et comme je la mène maintenant aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de... Voilà, c'est un vrai moment avec soi et c'est hyper enrichissant. Et moi, j'y ai trouvé ça. Après, peut-être qu'on peut y trouver plein d'autres choses en fonction Exactement. De ce qu'on va chercher.
Je trouve ça assez extraordinaire ce que tu en as retiré, parce que si je reviens sur la première grande leçon que tu en as retiré, c'est que peu importe, on l'entend tellement souvent, mais même toi qui es allé au fin fond des tréfonds du monde où il y a personne qui va, ce que tu en as retiré, c'est les grands adages qu'on entend, c'est déjà focus-toi sur le chemin, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est pas le chemin, c'est le chemin pour y aller, c'est pas dans le voyage, c'est ça qui compte, c'est te focus-toi, prends du plaisir dans le process et pas tant dans le résultat, parce que le résultat ça représente qu'un petit moment et le process représente tout le reste, et que si tu veux accomplir des grandes choses, enfin tu vois, c'est, on dit souvent, pour grimper une montagne ça commence par un premier pas, et découpe tes grands projets, tes choses qui te paraissent insurmontables, tes murs en petites briques, et tout à coup ça te paraîtra beaucoup plus accessible, tu vois. Et je trouve ça fou parce que il y a plein de gens, je fais beaucoup aussi d'interventions et d'interviews d'entrepreneurs, de gens dans le sport, peu importe, et ça en revient toujours à ça. Et je pense que les gens, c'est une vraie leçon que chacun peut retenir de ce que tu viens de dire. C'est mais pourtant, s'il y avait un truc qui paraissait insurmontable, c'est ça, tu vois. Même si, ok, tu t'es préparé, etc., ça paraît fou. Et te dire, ben, j'en reviens à ça, en fait. Et je me concentre sur mon petit pas, ma prochaine petite victoire, plutôt que regarder juste tout là-bas, parce que l'appréhension du cerveau, elle est énorme. Alors
c'est
que,
trop difficile.
Voilà. C'est le cerveau, il flippe. Alors que là, tu dis, ah, dans une heure, il y a le petit chocolat. Il y a le petit, ça va me tenir avec mon petit podcast. On va écouter Je t'emmène en voyage. On va être bien. Et c'est ça. Et le deuxième, c'est un peu la leçon que tout le monde a retenue du film qui a marqué aussi une génération, qui est Into the Wild, qui est ce fameux mec qui part finalement à l'aventure, parce qu'il en a marre de la société, il en a marre de tout le monde, pour se rendre compte au moment où le mec est tout seul et qui va pas bien, que bon, en fait la seule chose qui compte, c'est de le partager, ce bonheur, c'est de partager des bons moments. Je trouve ça, et ce qui est sympa avec ton aventure, c'est que toi t'es pas mort, tu vois. Et ça c'est... non mais c'est sympa, il y a une meilleure fin quand même, tu vois.
C'est marrant, j'avais pas pensé à la comparaison. Moi à l'inverse de Into the Wild, je suis pas parti pour fuir quelque chose, parce que moi en fait j'aime autant les départs que les retours. En fait, quand je suis revenu en France, j'étais hyper content aussi de revenir
c'est
à la
c'est ça
la non,
mais ça je vais te demander, t'étais content?
Mais ça, bien sûr,
ouais, mais ouais. Quand ça s'est passé? Quand c'est passé?
On me demandait, et alors, pas trop le blues du retour, etc. Moi, j'ai la chance, et je pense que c'est aussi lié à ça, mon état d'esprit au retour, mais j'ai la chance d'avoir réussi à faire d'un métier tout ça. C'est-à-dire que, voilà, je fais des aventures, des expéditions, mais je gagne ma vie en racontant ces aventures-là sous plein de formes, avec des conférences en entreprise, des conférences dans les écoles, avec des films pour la télé, avec le livre, et puis avec, voilà, les podcasts, les réseaux sociaux, etc. Et j'arrive à faire mon petit bout de chemin comme ça, mais le fait en fait de faire vivre ces aventures avec toutes ces plateformes là, eh bien ça voulait dire que mon aventure elle se terminait pas au moment où j'arrivais au pôle sud. En fait, elle allait continuer de vivre, enfin avec ces différentes voies là, et ça me permettait moi en fait d'atterrir tout doucement. Et donc en fait le retour était assez plaisant. Et moi il y a quelque chose que je dis assez souvent aussi, c'est que ce genre d'expédition, ce genre d'aventure, elles mettent du temps à être préparées, et en fait toute cette partie de préparation, elle est hyper importante. Moi, j'ai peut-être mis 1 an et demi, 2 ans à préparer l'aventure, et finalement j'ai passé que 2 mois sur place. Et là, ça fait 2 ans que je suis rentré, et il y a eu un film, il y a eu un livre, il y a eu des conférences, etc. Et donc, en fait, c'est des gros projets, et si on n'aime pas toute cette partie de préparation et toute cette partie de retour d'expérience, partage, eh ben faut changer de job, quoi, parce que c'est la majorité du temps en fait. Donc le fait de revenir, en fait, c'était juste la continuité de cette aventure, et donc j'étais assez heureux, d'autant plus que j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc j'étais j'étais en bonne, j'étais mais, plutôt dans un bon état d'esprit.
Mais sur un truc un peu plus, sur un niveau, je dirais, pareil, pragmatique, c'est, comme tu dis, tu, déjà la nuit. Tiens, c'est vrai que j'avais oublié ce concept. Tiens, les lumières, le bruit, il n'y a pas eu ce côté genre où tu te sens agressé ou au contraire, c'est genre, ouh, ça fait du bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu des décalages quand même?
C'est effectivement.
J'allais dire, c'est jour et la nuit, pardon. Mais c'est un peu naze, mais c'est un peu ça.
C'est deux environnements, bah ouais, complètement différents, quoi. D'un côté, tu as un environnement tout blanc avec très peu d'odeur, très peu de couleurs aussi, parce qu'en fait, faut imaginer que le ciel, il est souvent blanc. Donc, c'est souvent, en fait, du blanc dans le ciel et puis du blanc sur la neige. Et puis, c'est que toi, avec ton traîneau et tes skis. Et puis, tu passes après dans un environnement, bah, très sonore, effectivement, avec des bagnoles, avec de la pollution, avec des arbres, avec tout le confort possible et imaginable. Et c'est vrai que ça peut être un peu agressif. Mais d'un autre côté, et c'est malheureux peut-être, mais tu te réadaptes très très vite. Tu te réadaptes extrêmement rapidement à ce confort que tu as laissé. Pendant 4-5 jours, ça fait bizarre parce que tu portes un jean, des baskets, etc. Mais en fait, tu te réhabitues. Et c'est presque malheureux parce que c'est presque trop rapide en fait. Mais tu te réhabitues très vite à cette vie que tu as laissée derrière. Et puis, c'est pas désagréable. On va pas se mentir. Changer de caleçon une fois en deux mois, c'est pas forcément la meilleure expérience.
Je comprends vécu, parfaitement. dans une très 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 moindre mesure, quand j'ai passé un mois en Mongolie, tu vois, en fin fond de la steppe, où pareil, il y a pas de douche, hein, mais bon, c'est il y a pas grand chose. Enfin, c'est épuré. C'est alors j'étais dans une famille nomade, mais j'avais enchaîné après sur un trip à Bali. Où là, tout à coup, t'as des milkshakes bananes avec la mer, avec, tu vois, les douches chaudes. Et ça se passe bien.
C'est pas genre,
oh non, non, c'est, oh si, envoie le milkshake banane, tu vois, je suis content. Je suis plutôt content. J'aimerais qu'on s'imagine que là, ce soir, tu es à la table, t'as réuni plusieurs potes. Et justement pour leur parler de cette aventure, parce que t'avais pas encore eu le temps depuis toutes ces années, ça fait 2 ans, et c'est des bons potes que t'avais pas eu depuis longtemps. Et là tu vas balancer un max d'anecdotes en te disant je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé pendant que j'étais sur la glace, je vous ai pas raconté. Et là j'aimerais que tu nous balances quelques petites anecdotes sympas, que ce soit marrantes, flippantes ou je sais pas.
Alors, exactement. J'en ai plusieurs. La première, c'est que le premier jour, je mets le pied dans une crevasse. Tu vois, ça, on en a pas parlé. Mais première journée, c'est la journée qui est peut-être la plus difficile parce que c'est celle où il y a le plus de dénivelé. En fait, pour monter sur la calotte polaire, il y a vraiment une espèce de grosse montée où tu dois tirer le traîneau qui est son plus lourd parce que il y a toute la bouffe.
Ouais, c'est le début.
Et moi, j'étais sur mes deux skis sous lesquels il y avait des peaux de phoque, donc pour agripper la neige et pas glisser en arrière. Sauf que le poids était tel et la pente était telle que j'arrivais pas à monter sans glisser. Et donc j'ai eu la mauvaise idée d'enlever mes skis pour avoir plus de traction sur la neige, sauf que quand tu fais ça, en fait, ton poids, il est plus réparti sur 2 mètres de ski, il est réparti sur tes deux pieds, et donc, en fait, t'es plus susceptible de passer au travers de la glace. Et moi, j'ai mis le pied droit sur un pont de neige, donc ce que je t'ai expliqué au départ, là, une espèce de couverture neigeuse de couche de glace qui recouvrait un trou, et mon pied droit est passé au travers de ce pont de neige. Et ce qui était extrêmement flippant, c'est que donc je me suis retrouvé par terre avec ma jambe droite qui pendouillait dans un trou. Et je me souviens que le pied il reposait sur rien, donc il était complètement dans cette cavité. Heureusement, il y avait que cette jambe droite, et donc moi j'ai pu me mettre sur le côté du trou et puis ramper vers mon traîneau et me sortir assez rapidement et facilement du trou. Mais si tu veux, c'était quand même un super gros avertissement dès le premier jour où moi j'étais.
Appréhension permanente après. Enfin, c'est le truc, comme par hasard, le premier jour.
Ouais, mais j'étais tout feu, tout flamme et j'étais pas complètement dedans encore et j'aurais jamais dû enlever mes skis. C'était une vraie erreur, surtout à cet endroit-là. Mais voilà, c'était trop dur, ça montait trop haut que je me suis dit, bah, allez, il y a 100 mètres, je vais faire ça 100 mètres tout seul. Et ça a été plutôt un bel avertissement parce que du coup, tu vois, dans les moments durs, j'essayais de redoubler d'efforts pour pas enlever les skis parce que c'est pas vraiment une bonne idée quand tu sais pas trop ce qu'il y a en dessous. Et heureusement, il y a eu que la jambe droite et ça s'est bien terminé. Mais ça, c'est la première anecdote qui m'a quand même bien
pas mal, non, pas mal. Là, je peux dire, là, tous tes potes autour de la table, ils sont, mais non, sérieux, Mathieu, sérieux, comment, non, mais vraiment, ça, c'est pas mal.
Je l'ai filmé en plus, c'est dans le film, donc tout ça est vérifiable. Une autre anecdote qui est peut-être étonnante, c'est que le 36e jour précisément, je suis en train de skier et donc bah je skie tout seul avec mon traîneau derrière moi et donc moi je regarde souvent mes skis et puis le paysage et là à l'horizon, il faisait assez beau, je vois un petit point noir à l'horizon. Donc curieux, je me demande est-ce que je suis pas complètement taré, ça fait quand même 36 jours que je suis tout seul, peut-être que je commence à délirer. Et ce petit point noir devient de plus en plus gros. Et donc je fais mais en fait non, il y a vraiment un truc chelou qui est en face de moi et qui arrive. Ce petit point noir se divise en 3 et il y a maintenant 3 points noirs. Et là je me dis OK, il se passe un truc. Et donc je m'arrête et je laisse ces 3 points noirs s'approcher, enfin grossir de plus en plus, et ça peut pas être des skieurs parce qu'ils sont vraiment trop gros à l'horizon. Et c'était 3 énormes 4x4 modifiés pour les conditions polaires à 6 roues motrices qui en fait sont arrivés vers moi, et c'est des énormes 4x4, faut imaginer, c'est des Toyota Hilux modifiés qui sont vraiment très très gros, avec dans le pick-up une réserve d'essence, ils sont surélevés, etc. Donc c'est vraiment des énormes machines. Et en fait, eux m'ont vu aussi à un moment quand ils se sont rapprochés, ils ont dévié un peu de leur cap pour venir à ma rencontre. Et cet expé motorisé venait du pôle et repartait sur la côte du continent. Donc on était un petit peu sur la même trajectoire, et c'est pour ça qu'on s'est croisés. Et aussi parce qu'il n'y avait pas de brouillard ce jour-là. Et là, c'est la première fois que je rencontre d'autres humains après quasiment un mois de solitude. Et donc, évidemment, moi, je suis très curieux, en fait, de voir ces gens. Enfin, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me planque? Parce que c'était bizarre de voir ces trucs-là. Et puis, je savais pas trop ce que c'était. Et finalement, bon, bah, eux viennent vers moi et on a un échange. Et c'était amusant. Sauf que c'est vrai que quand ils sont partis, je me suis dit que c'était quand même un peu curieux, un peu bizarre, parce que la solitude que j'étais venu chercher, j'avais l'impression qu'on lui avait un peu marché dessus, quoi, qu'on avait un peu violé mon intimité, parce que, et puis surtout voir des mecs en bagnole, en t-shirt, parce qu'ils ont le chauffage, et puis sur des iPads, parce que c'était des touristes asiatiques, en fait, qui faisaient cet expé. Je me suis dit, on vit quand même dans un drôle de monde. Ouais. Après, voilà, eux sont des visiteurs de l'Antarctique, et moi aussi, donc, j'ai pas grand chose à dire, mais c'est vrai que la manière de faire était particulière parce qu'ils font cet expé en quelques jours.
L'opposition était folle à mon avis.
Ouais. Mais ça c'était quand même assez incroyable.
Ils t'ont fait un petit truc ou pas? Ils t'ont lâché un peu de vodka, un petit truc chaud, rien?
Ils m'ont proposé, mais tu sais que bon, moi je savais que tout ce que tu acceptes de personnes que tu pourrais croiser, ça annule ta condition sans ravitaillement. Parce que si tu leur donnes tes déchets par exemple, ou que tu leur lâches, je sais pas, un truc qui te sert à rien, bah du coup, pour les puristes et pour toutes les expéditions qui sont faites là-bas, tu perds ce statut en fait sans ravitaillement. Donc non, moi j'ai refusé poliment, mais ils m'ont proposé. Ouais, ils m'ont proposé.
Bah attends, tu veux pas? Non, je te dis, tu arrêtes, tu vas me niquer mon record là.
Exactement, je n'ai pas faim.
Tu vois, regarde, il y a encore 15, il y a encore 300 km à faire, t'es chiant là. J'aimerais qu'on arrive sur la fin du podcast avec les deux questions que j'aime bien poser, mais avant, j'ai envie de t'en poser une autre. Parce que je pense que justement le fait d'avoir eu le temps de réfléchir à plein de choses, à je pense ton avenir, à peut-être aussi la planète, enfin tu sais plein de sujets vraiment divers et variés, des plus anodins jusqu'au plus profond. Si demain on apprend à la télé que il y a une météorite là qui arrive dans notre gueule, dans un an elle vient percuter la Terre et de toute façon en gros c'est fini. Si tu savais qu'il te restait plus qu'un an à vivre, avec tout ce que t'as appris, toutes les leçons que t'as apprises dans ta vie, ce que ça t'a apporté, ce que t'as vécu. Qu'est-ce que tu ferais de cette année s'il te restait plus qu'un an à vivre?
Oh là là, c'est terrible cette question. Qu'est-ce que je ferais s'il me restait un an à vivre?
C'est la galaxie, elle envoie une météorite. Moi, je te préviens. T'imagines, c'est sympa.
Et on pourrait travailler à dévier cette météorite ou c'est inéluctable?
Ok. Donc toi, tu connais Bruce Willis. Les gars, regardez Armageddon.
Non, parce que du coup, j'ai deux réponses. S'il y a aucune solution, je pense que je ferai le choix que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. C'est que je pense que je me recentrerai autour des personnes qui sont les plus importantes pour moi, donc ma famille, mes proches, et je pense qu'on passerait le plus de temps ensemble parce que je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important au-delà de tous les loisirs qu'on peut avoir, de toute la recherche tu vois, de réussite professionnelle. Je pense vraiment que je me recentrerai autour des trucs qui sont les plus importants, c'est-à-dire les copains et la famille. Et puis s'il y avait une solution de dévier cette météorite, je travaillerais avec toutes les bonnes énergies et les bonnes volontés pour essayer de la dévier, quoi, parce que c'est un peu con de détruire notre Terre de cette façon, quoi.
C'est vrai qu'on a tellement une meilleure, nous on la tue à petit feu, c'est quand même beaucoup plus sympa.
Ouais.
D'accord, avant-dernière question, si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de cette expédition, lequel ce serait et pourquoi?
Je crois que ce serait le moment où j'arrive en Antarctique. Effectivement, je pourrais te répondre, l'arrivée au pôle sud, c'est formidable, j'ai atteint mon objectif et c'était évidemment un moment extraordinaire. Mais peut-être que le plus beau moment, c'est quand je mets les pieds sur ce continent antarctique. Parce que je me souviens, j'étais dans ce gros avion sans hublot, donc on n'avait pas vu l'Antarctique par le hublot. Moi, je l'ai ressenti quand ils ont ouvert la grosse porte de cet avion-là, et je l'ai ressenti parce qu'il y a un flux d'air glacé qui a envahi l'habitacle, et je me suis pris vraiment le flux d'air de moins 20 degrés en plein dans la face, et puis en sortant, il faisait très beau, donc c'était très lumineux, et donc tu vois, tu plisses les yeux, tu regardes un peu où t'es, et tu poses les pieds sur cette glace bleue, et tu fais cette expérience du continent. Et moi, j'en avais tellement rêvé, j'avais tellement imaginé en fait descendre de cet avion. Et là, pour la première fois, je pose les pieds sur ce septième continent qui m'a fait tant rêver, et je me dis, mais voilà, ça, personne pourra me l'enlever, même si j'arrive pas à atteindre mon objectif qui est le pôle sud. Ça, c'est une victoire de malade. Et être là-bas et avoir atteint cet objectif, même si je commence pas mon expédition, c'est peut-être un peu bizarre comme on dit comme ça, mais c'était une sensation extraordinaire en fait que de me retrouver là-bas. Et donc si je pouvais revivre ça, clairement moi, la descente de cet avion et les premiers pas sur le continent antarctique, c'est un des souvenirs les plus forts de cette aventure.
Ça donne un petit peu envie d'y aller quand même. Dernière question, si tu devais résumer justement cette aventure en une citation, une phrase de ta création, une punchline, ce serait laquelle ?
Moi, il y a quelque chose que j'ai écrit dans mon livre et qui résume peut-être assez bien mes aventures et peut-être cette dernière expédition. C'est que je ressens une certaine urgence de vivre. J'ai 28 ans, ok, c'est vrai, j'ai fait pas mal d'expéditions, d'aventures, etc. Mais tout ça a été aussi un cheminement, et au début il n'y avait pas des expéditions au pôle sud, c'était des aventures que j'autofinançais en travaillant en tant que serveur, et c'était des aventures à vélo, en stop, en kayak, et c'est comme ça que j'ai accumulé de l'expérience et que je me suis dirigé après vers des aventures un peu plus construites et un petit peu plus professionnelles. Mais je pense que ça répond d'une chose, c'est que je ressens cette urgence de vivre. Je me dis que voilà, la météorite elle peut arriver du jour au lendemain, et que voilà, ce mystère de la vie qui fait qu'on est tous là, on n'aura pas la solution, on n'aura pas la réponse, mais moi j'ai envie de vivre des moments d'intensité, et ma passion c'est de partir à l'aventure, de découvrir des nouvelles choses et de nouveaux horizons, et de raconter tout ça avec ce que je fais aujourd'hui. Et du coup cette urgence de vivre elle me pousse à me dépasser, elle me pousse à entreprendre des choses qui me font peur, et plus tu entreprends des choses qui te font peur, plus tu te découvres toi-même, et plus ça te donne envie d'aller encore plus loin. Et donc je résumerai peut-être tout ça par l'urgence de vivre qui m'anime, et par cette peur du regret qui me pousse à entreprendre des choses quoi qu'il arrive, et puis si ça marche pas, ça marche pas, mais ce sera toujours un apprentissage.
Eh ben Mathieu Torder, je te remercie beaucoup pour cette aventure, pour ce résumé, pour toutes ces anecdotes, pour toutes ces leçons de vie. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
Merci à toi.
Évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que là c'était juste un mini aperçu de tout ce que Mathieu a vécu, vous pouvez retrouver son livre Le Continent Blanc.
Exactement.
Je n'écorche pas. Aux éditions, parce que à la télé ils disent toujours aux éditions quelque chose. Je trouve que ça fait classe.
Ouais.
C'est aux éditions quoi?
Oui. C'est Le Continent Blanc aux éditions Robert Laffont.
Oh, c'est la classe aussi, Robert Laffont. C'est pas mal.
Ouais,
c'est une valeur sûre qu'on peut retrouver évidemment, que ce soit chez tous les libraires ou même en ligne.
Ouais, tu peux le retrouver sur mon site internet mathieutorder.com.
Ok, parfait. De toute façon, comme d'habitude, internautes, tous les liens utiles pour que ce soit sur le livre de Mathieu Torder, que ce soit son site internet ou sur tous ses réseaux pour pouvoir le suivre, c'est dans la description du podcast, tout simplement. Donc, t'embête pas à aller chercher sur Google si tu veux. C'est encore plus simple de cliquer sur le lien en bas si ça t'intéresse. Évidemment, avant de nous quitter, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est les petites dédicaces en story. On en est friand, on adore ça. Donc, si t'as fait un petit Ironman, et pendant ton Ironman, t'as écouté ce podcast, fais-nous une dédicace. avec la vaisselle ou le jardinage, ça marche aussi, chacun son truc. Parce que je sais que t'as écouté quelques-uns des podcasts pendant ton aventure en Antarctique, et ça, je peux te dire, c'est une des plus belles dédicaces qu'on ait fait de ce podcast, j'avoue. Un selfie en Antarctique avec le podcast est magique. Donc si t'en es comme ça, internaute, hésite pas, on est preneur. Et moi, Mathieu, bah écoute, je te dis bonne vente de livres et encore à très très vite pour de prochaines aventures.
Merci Alex, à bientôt.
Ciao.